Frères et sœurs, bonsoir. C'est déjà mardi, le troisième jour de cette semaine sainte. Que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter, et de l'Esprit Saint, notre Consolateur. Notre aide est Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils, et qui nous a sauvés par sa vie, et qui a fait de nous l'habitation du Saint-Esprit. Amen. Ô miracle, frères et sœurs, Dieu a fait de nous ses enfants, et Jésus-Christ est devenu notre frère. Tout cela a été rendu possible grâce à son œuvre accomplie durant la Semaine Sainte, qui est passée par Vendredi Saint et qui a débouché sur le dimanche matin de Pâques. Prenons conscience des retombées de la Semaine Sainte. Jésus est notre frère, notre joie, notre lumière, le prince de la vie. Il est avec nous au temps de l'épreuve, dans le bonheur même, lui, le roi qui nous aime. Qu'en toi, Seigneur, notre joie demeure. Je vous avais dit qu'il y aurait un profond sentiment de reconnaissance durant cette semaine. Eh bien, nous y sommes. Exprimons donc notre reconnaissance en chantant ensemble « Ô Jésus, mon frère !»
Ô Jésus, mon frère,
ce mardi est une journée très chargée. Le matin, en repassant à proximité du figuier, Pierre interpelle Jésus. Rabbi, vois, le figuier que tu as maudit est desséché. » Le Christ donne à ce propos un enseignement sur la foi dans la prière. Si vous avez la foi, vous pouvez transporter des montagnes, dit le Seigneur. Au cours de cette journée, les Hérodiens, les Sadducéens et les Pharisiens, chacun à leur tour, multiplient les attaques contre le Christ. Ils mettent en doute son autorité et sa mission. Tiens, est-il permis, oui ou non, de payer le tribut à César ? Demande-t-il. Puis une question piège sur la résurrection. Ensuite une autre sur le plus grand des commandements. Toutes ces questions visent à piéger Jésus. Il les a tous déjoués. Ces attaques répétées rendent le climat de plus en plus lourd. Chacune de ces remises en question de Jésus invite à la réflexion personnelle. Et je pense qu'à travers ce que Jésus dit aux pharisiens, à ses adversaires, c'est à nous qu'il peut s'adresser aussi, car il peut toujours demeurer en nous. Quelque adversaire. Alors, et moi, face à ces questions, que répondrai-je? La conclusion de toutes ces escarmouches, c'est que, dès ce jour, personne n'osa plus interroger Jésus. D'ailleurs, il n'y a plus de précautions à prendre. Tout peut être dit. L'heure du Père est proche. Le cours des événements se poursuit et notre Seigneur, qui n'a jamais pu supporter l'hypocrisie des pharisiens, si contraire à son caractère à lui, notre Seigneur délivre son cœur. Comme il y a un discours des béatitudes, il y a ici un discours des malédictions. Il faut se rappeler qu'on est le mardi. Quelle audace de la part de Jésus. Quelle passion de la vérité. Eh bien, écoutons.
La première lecture se fera dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 23, versets 1 à 14. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toute leur action pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car vous n'avez qu'un maître, qui est le Christ. Et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Nous poursuivons la lecture du verset 23 à 39. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle, qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur devienne aussi net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même et que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez de verge les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, « Béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. » Amen.
Prions. Dieu saint et miséricordieux, tu résistes aux orgueilleux et tu fais grâce aux humbles. Nous t'en prions, garde-nous de toute propre justice et donne-nous assez d'humilité pour découvrir ta grande miséricorde. Qu'ainsi notre seul désir soit de te servir dans la reconnaissance pour la grâce imméritée qui nous est faite en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Enfin, Jésus sort du temple. On a quitté la ville, on a traversé le torrent du Cédron, et on remonte la pente du mont des Oliviers. C'est le soir. Arrivé à peu près, sans doute, à l'endroit où, deux jours auparavant, Jésus avait pleuré en contemplant sa ville dans la splendeur du matin, le maître s'assied. Un de ses disciples, enthousiaste, lui dit, « Maître, vois quelle belle pierre et quelle construction !» Et voici que vient la double confidence sur la ruine du temple, qui se trouve là juste devant eux, et sur la fin du monde. Écoutons. Ce sera Matthieu 24, 1 à 14, versets 23 à 27 et 36 à 42.
Là-dessus, Jésus quitta la cour du temple. Tandis qu'il s'éloignait, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer l'architecture du temple. Alors il leur dit, Oui, regardez bien tout cela. Vraiment, je vous l'assure, tout sera démoli. Il ne restera pas une pierre sur une autre. Comme il était assis sur le mont des Oliviers, ses disciples s'approchèrent, le prirent à part et lui demandèrent « Dis-nous, quand cela se produira et quel signe annoncera ta venue et la fin du monde ?» Jésus leur répondit « Faites bien attention, que personne ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant « Je suis le Messie » et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura des famines, des tremblements de terre en divers lieux. Mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de moi. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. Verset 23. Si quelqu'un vous dit alors, « Voyez, le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas. De faux Christs surgiront, ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes extraordinaires et des prodiges au point de tromper, si c'était possible, ceux que Dieu a choisis. Voilà, je vous ai prévenu. Si l'on vous dit, regardez, il est dans le désert, n'y allez pas. Si l'on prétend, il se cache en quelque endroit secret, n'en croyez rien. En effet, quand le Fils de l'homme viendra, ce sera comme l'éclair qui jaillit du levant et illumine tout jusqu'au couchant. Verset 36. Quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils, personne, sauf le Père et lui seul. Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporta tous. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. Alors deux ouvriers travailleront côte à côte dans un champ, l'un sera emmené, l'autre laissé. Deux femmes seront en train de tourner la pierre de meule, l'une sera emmenée, l'autre sera laissée. Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra.
Les paroles inouïes sont tombées une à une. Des images et des paraboles se sont enchaînées et s'attirent l'une l'autre. Les belles et orgueilleuses constructions de l'œuvre humaine s'effondreront, dit Jésus. Les sectes trompeuses proliféreront. Des chrétiens seront persécutés et seront exécutés. Il y aura des famines, des tremblements de terre et partout. Dans le même temps, c'est vrai, les œuvres d'amour seront battues en brèche. À la fin, le Seigneur dit, « En raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Ce sont des paroles très fortes que prononce le Seigneur ici sur la destruction de Jérusalem et l'avènement du Fils de l'homme. Il parle aussi du serviteur fidèle qui veille au retour de son maître. Puis ce sont la parabole des 10 vierges, la parabole des talents et celle du jugement des nations avec les brebis et les boucs. Ce qui est vrai, c'est qu'une 40aine d'années après ces paroles, en l'an 70 de notre ère, l'empereur Titus accomplissait la prophétie en détruisant Jérusalem, provoquant une diaspora qui a duré plus de 20 siècles. Plus de 20 siècles. Car c'est seulement en 48 que s'est reformé l'État d'Israël et qu'il a été reconnu comme tel par les Nations Unies. Voyez donc, aucune parole du Seigneur n'a été vaine. Nous aurions tort de négliger tout ce qu'il avait dit, y compris le jugement dernier et la fin du monde lorsqu'il reviendra en gloire. Nous avons tout intérêt, frères et sœurs, à nous préparer, à être prêts chaque jour. Chaque jour qui peut être pour chacun de nous le dernier. La parabole des 10 vierges ne nous invite-t-elle pas à la vigilance? Mais avant d'écouter la parabole des 10 vierges, je vous invite à prier ensemble. Seigneur Jésus-Christ, tu nous as mis en garde contre les séductions de la puissance des ténèbres en nous prédisant qu'il y aurait des faux prophètes et des faux messies. Nous t'en prions, accorde à ton Église d'être toujours illuminée par ton esprit et attentive à ta voix, afin qu'elle ne suive pas tous ceux qui cherchent à l'égarer, mais qu'elle se tienne prête pour le jour où tu viendras dans la gloire. Toi qui es béni au siècle des siècles. Amen. Écoutons la lecture suivante sur la parabole des 10 vierges en Matthieu 25, versets 1 à 13.
Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leur lampe et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées, les 5 autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter de réserve d'huile. Mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit. « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées. « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. » Mais celles-ci leur répondirent, « Non, il n'y en aura jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt vous en acheter chez le marchand. » Elles partirent en chercher. Pendant ce temps, le mari arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. Il enferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour. Mais elles eurent beau crier, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il leur répondit, « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. » « C'est pourquoi, ajouta Jésus, tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure de ma venue. » Amen.
« Le Seigneur annonce son prochain avènement et nous invite à davantage de vigilance. Ne nous assoupissons pas, mais engageons-nous au service de notre Seigneur. Veillons sans être inquiets ni passifs, mais au contraire, décidés et engagés. La foi pousse à être vigilant. Ce temps d'attente entre la promesse de Dieu et la venue du royaume nous est donné pour vivre l'espérance. Nous sommes exhortés à ne pas nous résigner, mais à oser travailler ici-bas pour l'avènement du règne de Dieu. Ce temps que Dieu nous donne ne doit pas nous laisser passifs, mais nous conduire à glorifier son nom, nous conduire à vivre de telle manière que le nom de Dieu soit sanctifié en nous et par nous, que son règne vienne en nous et par nous, que sa volonté soit faite en nous et par nous. Nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais la promesse de Dieu demeure. Il nous appelle à rester debout. Ne nous laissons pas effrayer par la montée de la violence, des guerres, des épidémies et autres maux, mais au contraire, engageons-nous pour être des témoins, des veilleurs d'un monde qui est promis à la paix de Dieu. Et je vous invite à prier ensemble. Seigneur notre Dieu, fais-nous la grâce d'être vigilants dans l'attente de Jésus-Christ qui doit venir dans la gloire de son règne. Donne-nous de l'aimer et de le servir dans ce monde qui passe et de pouvoir entrer avec lui au dernier jour dans la joie sans fin de ton royaume. Exauce-nous pour l'amour de son nom. Amen. Jésus vient de parler de la ruine du temple, de la fin du monde, des paraboles sur la fin des temps et du jugement dernier. Telles sont les pensées graves et le long avertissement de ce soir-là. Quand la nuit est complètement tombée, Jésus se lève et avec ses disciples, il va passer la nuit au mont des Oliviers. Judas, note l'évangéliste Jean, connaissez aussi l'endroit. Dieu est notre allégresse, notre espérance. C'est lui qui vient réveiller la vie. C'est lui qui vient rafraîchir la vie. C'est lui qui vient l'apaiser. Et c'est à cela que je vous invite à chanter « Dieu, mon allégresse » dans Arc-en-Ciel, le numéro 611.
Traverser
Père, notre Père, nous te prions pour l'Église du Christ, afin que, tendue vers le retour de son Maître, elle rassemble tous les élus et se concentre sur l'essentiel et ne se laisse pas distraire par l'adversaire. Nous te prions pour tous ceux qui se tiennent à l'écart de la vie chrétienne, afin que le souci de leur travail, de leur plaisir ou de leur bien-être ne les empêche pas d'entendre l'invitation du Christ. Ô Dieu notre Père, nous te prions pour ceux qui ont perdu la foi, afin qu'ils n'endurcissent pas leur cœur, mais s'ouvrent à l'appel de Dieu. Nous te prions pour ceux qui cherchent la lumière ou sont déjà sur le chemin de la foi, afin qu'ils naissent à la vie nouvelle dans le Christ. Entends-nous, Seigneur, quand nous te prions pour les incroyants, afin qu'ils soient touchés par ta grâce et qu'ils passent par une conversion sincère et qu'ils échappent aux rigueurs du jugement en s'attachant au Christ qui a souffert et s'est donné pour nous. Ô Dieu, par la passion de ton Fils, notre Sauveur, tu as détruit la puissance du péché et de la mort qui tenait captif tout le genre humain. Fais-nous marcher dans la communion de ton Fils et rends-nous semblables à lui par ta grâce, afin que, transformés à son image, nous te servions comme des hommes nouveaux, par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre frère. Amen. Je vous invite maintenant, en terminant ce service, à recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Allez en paix. Amen. Et nous nous retrouverons demain en soirée pour méditer encore sur le mercredi, 4e jour de la Passion.